RFI, 7h à Paris et Berlin, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal. Bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Comme l'impression pour les Allemands de revivre le traumatisme de l'attaque à Berlin en 2016 sur un marché de Noël. Cette fois-ci, c'est à Magdebourg qu'une voiture Bélier a foncé sur la foule. Hier soir, l'attentat islamiste n'est pour l'instant pas avéré. Le suspect a été arrêté. Nous serons en Allemagne en direct dans un instant. L'eau, la nourriture et l'électricité tardent toujours à arriver à Mayotte. Avant de repartir, le président français a prévenu. La situation ne sera pas normale pendant des mois. Nous serons sur place avec l'envoyé spécial de RFI dans ce journal. Et puis des peines allant de 3 à 16 ans de prison. Les 8 accusés ont été reconnus coupables à l'issue de leur procès pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en France. C'était en 2020.
Le chancelier Olaf Scholz attendu à Magdebourg, dans le nord-est de l'Allemagne.
Au lendemain d'une attaque à la voiture Bélier sur un marché de Noël, dernier bilan communiqué, 2 morts, dont un enfant et plus de 60 blessés, dont une quinzaine grièvement. Le suspect d'origine saoudienne a été arrêté hier soir. Ses motivations ne sont pas encore connues. Cette attaque intervient presque 8 ans, jour pour jour, après des faits similaires qui s'étaient déroulés à Berlin, où l'on retrouve Pascal Thibault. Bonjour.
Bonjour.
Alors que sait-on de plus, Thibault, ce matin, 12 heures après les faits?
Ce qu'on sait, c'est donc qu'une voiture massive a foncé hier soir à toute vitesse, il y a exactement 12 heures, dans la foule, nombreuse bien sûr, un vendredi soir sur le marché de Noël au cœur de Magdebourg. Le véhicule ne s'est arrêté qu'après 400 mètres, ce qui en dit long sur la violence et aussi sur un bilan humain très sévère avec, vous le disiez, une soixantaine de blessés, dont une quinzaine grièvement. Deux personnes ont été tuées, dont un enfant en bas âge. Le conducteur de la voiture a été arrêté presque immédiatement. L'homme âgé de 50 ans est originaire d'Arabie Saoudite et travaillait dans la région. Il était arrivé en 2006 pour ses études en Allemagne. Il avait une formation de médecin psychiatre et avait obtenu plus tard le statut de réfugié. Il n'était pas connu pour avoir des antécédents islamistes. Au contraire, il semble que cet activiste connu dans la communauté saoudienne aurait reçu son statut de réfugié en raison de son opposition au régime dans son pays. Il aurait rompu avec l'islam, défendait même le danger d'une islamisation de l'Allemagne et les médias lui prêtent même des accointances avec le parti d'extrême droite AFD. L'émotion est évidemment énorme dans le pays. Vous le disiez, cela rappelle l'attentat il y a 8 ans, presque jour pour jour, contre un autre marché de Noël, celui de Berlin. Les réactions sont extrêmement nombreuses. Le chancelier Scholz, en effet, sera ce matin sur place.
Pascal Thibault en direct de Berlin pour RFI. Plusieurs réactions étrangères après cette attaque. Les États-Unis se disent choqués et attristés. Même sentiment du côté de la chef du gouvernement italien et du premier ministre espagnol. L'Arabie Saoudite exprime sa solidarité avec l'Allemagne et dit rejeter la violence. La France partage la douleur du peuple allemand, ajoute le président Emmanuel Macron.
Les écoles ne pourront pas toutes rouvrir le 13 janvier comme annoncé auparavant.
Et Mayotte ne vivra pas en situation normale pendant des mois, a prévenu le président français avant de repartir de l'archipel. Bonjour Nicolas Fellmann.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Envoyé spécial de RFI à Mayotte, où presque une semaine après le passage du cyclone Chido, les habitants attendent toujours davantage d'aide. Nicolas, a commencé donc par l'arrivée d'eau.
Oui, avec Emmanuel Macron qui l'a redit hier, l'accès à l'eau potable, à l'eau consommable est tout en haut des priorités. C'est pourquoi le président a promis que tous les foyers seront raccordés dès aujourd'hui au réseau, car depuis dimanche, le défi est colossal. Le cyclone Chido a endommagé une partie du réseau d'eau déjà défaillant sur l'archipel. Il a fallu diagnostiquer l'étendue des dégâts, réparer les canalisations. Alors, en attendant que l'eau ne revienne sur le réseau, c'est en urgence qu'elle arrive en bouteille, par avion, par bateau et même bientôt depuis les Comores, qui ont annoncé l'envoi de milliers de litres. Les autorités françaises affirment que les 17 communes du département ont pu être approvisionnées. Leur objectif désormais, c'est de parvenir à distribuer 2 litres d'eau par jour et par personne. Mais un peu partout, cette aide, elle semble encore trop juste par rapport aux besoins de la population. Hier, des habitants ont alerté le président dans l'Ouest, à Tsingani, sur ces distributions encore trop inégales.
Nicolas Fellmann en direct de Mayotte pour RFI. 16 ans de réclusion criminelle pour les deux amis de l'assassin de Samuel Paty en France. Ils ont tous deux été reconnus coupables de complicité d'assassinat. La cour d'assises spéciale de Paris a d'ailleurs reconnu coupables les 6 autres personnes impliquées à différentes échelles, dont l'assassinat de cet enseignant décapité en 2020 par un islamiste radical tchétchène. À l'origine de la campagne de haine ayant visé ce professeur d'histoire-géographie, le père de l'une de ses élèves a été condamné à 13 ans de prison, 15 ans pour le prédicateur islamiste Abdelhakim C. C'est Friouy qui va faire appel de cette décision. L'avocat de la compagne de Samuel Paty et de leur fils a salué un verdict équilibré. Mais la douleur demeure, ajoute la ministre démissionnaire de l'Éducation, Anne Genetet. La douleur et soulagement partagé par une partie de la communauté éducative, comme en témoigne Gilles Roumieux, professeur d'histoire-géographie.
En tant qu'enseignant, j'ai était tellement meurtri et choqué et abasourdi, sidéré par le crime perpétré contre mon collègue, que je m'attendais à des peines qui soient exemplaires. J'avais été très étonné des réquisitions qui avaient été observées. J'avais trouvé que c'était assez clément comme réquisition. Et puis, à la lumière du verdict, voilà, il y a eu des peines qui ont été rehaussées, qui ne répareront jamais le crime horrible qui a été perpétré, mais qui lance quand même un signal à tous ceux qui voudraient répandre des fausses rumeurs et puis mettre en danger la vie de professeurs.
Le témoignage d'un professeur d'histoire-géographie recueilli par Lou et Cal. Finalement, pas de shutdown aux États-Unis. Le Congrès vient d'éviter de justesse une paralysie des services publics fédéraux. La Chambre des représentants puis le Sénat ont tous deux validé une loi qui assure le financement de l'État fédéral jusqu'à la mi-mars. Washington, qui abandonne par ailleurs son offre de récompense prévue pour l'arrestation d'Abu Mohamed al-Joulani, le chef du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, qui a conduit l'offensive des rebelles en Syrie. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre des diplomates américains et les responsables du HTS. Les nouvelles autorités de Damas assurent de leur côté dans un communiqué vouloir jouer un rôle dans la promotion de la paix régionale et construire des partenariats stratégiques privilégiés avec les pays de la région.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelle d'un an le mandat de sa force de maintien de la paix en République démocratique du Congo.
Même si les soldats de la MONUSCO ont commencé à quitter le territoire à la demande de la RDC, et ce alors que l'est du pays est toujours en proie à une rébellion menée par le M23. Le rôle de l'Ouganda dans ce conflit est d'ailleurs de nouveau source de tension entre Kampala et Kinshasa. Accusé en juillet dernier par le groupe d'experts de l'ONU d'apporter un soutien aux rebelles, l'Ouganda s'en défend. Mais depuis l'échec du sommet de Luanda le week-end dernier, et alors que le M23 a repris son offensive dans le Nord Kivu, les soupçons de complicité, Florence Maurice, ressurgissent.
Signe que la tension est montée d'un cran, la ministre congolaise des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires ougandais en poste à Kinshasa pour exiger qu'il clarifie, je cite, le positionnement de Kampala au sujet de la guerre en cours et l'état des relations entre les deux pays. En cause, une série de tweets publiés par le général Muhoozi, le chef d'état-major ougandais. Dans ses messages, il menace de s'en prendre aux mercenaires alliés des forces armées congolaises dans le conflit. Or, le général a beau être coutumier des emportements sur Twitter, il a d'ailleurs effacé ses messages depuis. Ses propos ont tout de même alimenté le soupçon d'un soutien ougandais au M23 et à son allié le Rwanda. Car le contexte n'est pas anodin. Depuis dimanche, les rebelles ont repris leur offensive dans le Lubero en direction de Butembo, non loin de localité où est déployée l'armée ougandaise dans le cadre de l'opération Shuja contre les ADF, et surtout dans une zone où le M23 n'avait encore jamais pénétré et considéré historiquement comme appartenant à la sphère d'influence ougandaise dans l'est congolais. L'attitude de l'armée de Museveni face aux rebelles sera scrutée de près dans les semaines qui viennent.
Le drame a fait 15 morts et 2 blessés, plus d'un mois et demi après l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad. La contestation contre la corruption et l'impunité continue en Serbie, portée par les étudiants qui bloquent une cinquantaine d'universités à travers le pays, mais aussi par les lycéens. En hommage aux 15 victimes, ils interrompent chaque jour pendant 15 minutes la circulation dans de nombreuses villes et se préparent à une nouvelle grosse manifestation demain. Les précisions de Laurent Rouy.
En plein Belgrade, ces étudiants bloquent un carrefour 15 minutes, en silence. La manifestation contre la corruption survient après l'effondrement mortel du auvent de la gare de Novi Sad, alors que la justice semble peu motivée à chercher les responsables. On écoute un étudiant.
Les étudiants demandent que toute la documentation liée à la reconstruction de l'ensemble de la gare qui s'est effondrée sur des personnes soit rendue publique. Nous estimons que les citoyens de Serbie, tout comme nous, les étudiants, avons le droit de savoir qui sont les responsables de cet accident.
Le mouvement anticorruption grandit. Proglas, un groupe d'intellectuels, organise des débats, comme ici à Vrbas, dans le Nord, avec Milojko Arsic, économiste.
La corruption systémique se manifeste de cette manière. Les contrats avec l'État sont attribués à des entreprises dont les propriétaires sont proches du pouvoir en place. Une partie des fonds issus de ces projets obtenus auprès de l'État est utilisée pour financer le parti au pouvoir, mais aussi pour l'enrichissement personnel des membres du gouvernement actuel. Bien sûr, ces propriétaires d'entreprises s'enrichissent également tant qu'ils restent loyaux envers le pouvoir. Le gouvernement évite de lancer des enquêtes contre de telles personnes.
Étudiants et protestataires sont bien décidés à faire entendre leur voix. Ils organisent une grande manifestation dimanche. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Au Portugal, le gouvernement de droite s'est appuyé sur les députés de l'extrême droite pour faire passer une loi qui restreint l'accès aux soins des immigrés s'ils ne sont pas résidents dans le pays. L'opposition et les humanitaires s'inquiètent de la montée sécuritaire. 1 million d'immigrés, pas tous légalisés, vivent au Portugal. Correspondance depuis Lisbonne de Marilyn Darcy.
Le tourisme de santé, c'est fini. Au Portugal, la droite et l'extrême droite ont fait bloc à l'Assemblée nationale pour adopter un changement à la loi de base de la santé. Désormais, les non-résidents sur le territoire, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne, ne pourront plus bénéficier gratuitement des soins dans les hôpitaux du pays. L'objectif affiché est de réduire l'engorgement des services de santé et de diminuer les coûts, même si l'impact de ce tourisme de santé n'est pas clairement évalué financièrement. L'opposition tout entière s'est indignée contre ce qu'elle considère comme un glissement vers les thèses du Chega, le parti d'extrême droite. Alors que la loi était adoptée, le même jour, le gouvernement ordonnait une opération policière d'envergure dans la Mouraria, le quartier des immigrés du centre de Lisbonne, afin, a-t-il justifié, de montrer la sécurité à l'œuvre. Les résultats très minces, un clandestin, quelques faux papiers et des produits contrefaits découverts sont un contre-exemple, mais la dérive droitière inquiète. Un mois après les émeutes de banlieue provoquées par la mort d'un Cap-Verdien tué par la police. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
RFI 7h12 à Paris, on s'intéresse à présent à un film pour le moins volcanique.
Un film qui évoque la passion d'un couple de chercheurs, les Kraft. Ils ont étudié et filmé de près les éruptions volcaniques aux quatre coins de la planète, de Hawaï au Mexique, de l'Islande à l'Indonésie. Le réalisateur Werner Herzog met en scène leur existence dans son nouveau film « Au cœur des volcans », Elisabeth Le Quéret.
C'est à un couple de légendes que Werner Herzog rend hommage dans son nouveau film. Sur les photos, leur bonnet rouge leur donne des airs de lutins défiant coulées de lave, cratères de cendres et de fumée. Au grand spectacle des volcans, Katia et Maurice Kraft avaient pris un abonnement à vie. 25 ans d'assiduité, 175 éruptions guettées, filmées et photographiées pour mieux partager leur passion.
J'ai vu tellement d'éruptions en 23 ans. Même si je meurs demain, je m'en fous.
31 ans après leur disparition en 91 au Japon lors d'une éruption du mont Hunzen, le réalisateur s'empare de leurs archives proposant un montage du film ultime qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser. On connaît les moteurs de l'imagination d'Herzog, entre autres sa conscience aiguë de l'insignifiance de l'humain face au cosmos. Cette énigme en tête, il compose ici un poème lyrique aux images inoubliables.
Voilà, au cœur des volcans, le nouveau film de Werner Herzog, actuellement au cinéma.
Merci Clotilde Dumay. RFI Matin, la suite, c'est une large page consacrée à la Syrie dans les prochaines minutes. Avec un journaliste syrien exilé en France dans Menace sur l'information et avec notre invité juste après, l'actrice, réalisatrice et scénariste syrienne Ala Rajab. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Christophe Diremzian du foot. Et une belle affiche en Liga espagnole avant la trêve des fêtes de fin d'année. Le leader, le FC Barcelone, reçoit son dauphin, l'Atlético Madrid, pour le compte de la 18e journée.
Laquelle des deux meilleures équipes actuelles va partir en congé avec un moral un peu meilleur que l'autre? Eh bien, réponse ce soir. À l'issue de ce choc de gala entre deux clubs aux dynamiques très différentes, si les Colchoneros ont mis le turbo ces dernières semaines avec 5 victoires d'affilée en championnat, le moteur tous au Barça sur la même période. Une seule victoire pour 2 nuls et 2 défaites et pas face à des terreurs, Leganés et Las Palmas. Oui, bon, mais on est quand même premier, rappelle l'entraîneur Hansi Flick, et ça, il faut savoir l'apprécier.
Lorsque nous avons débuté notre préparation au début de l'été, si quelqu'un m'avait dit qu'au 20 décembre, nous serions premiers en Liga et deuxième en Ligue des Champions, j'aurais signé tout de suite. Nous avons perdu des points et ça a été compliqué sur ces derniers matchs face à Leganés, face à Las Palmas. Ce sont des adversaires que l'on doit battre, mais je dois les respecter et avouer qu'ils ont mérité leur victoire. Ils ont été meilleurs que nous.
Hansi Flick avance ce match contre un peu plus fort théoriquement que Leganés et Las Palmas. L'Atlético d'Antoine Griezmann, coup d'envoi 20h temps universel. Le Bayern Munich, lui, va très bien. Il a fait comprendre un peu sévèrement hier soir au RB Leipzig, écrasé 5-1 en ouverture de la 15e journée. Les Bavarois, de nouveau munis de Harry Kane, de retour de blessure, comptent provisoirement 7 points d'avance sur le Bayer Leverkusen qui reçoit Fribourg.
En Angleterre, le cauchemar de Manchester City en Première Ligue va-t-il s'arrêter aujourd'hui à Aston Villa ?
SOS, équipe en détresse. Les quadruples champions en titre sont en perdition. 8 défaites en 11 matchs. L'entraîneur Pep Guardiola ne cesse de gratter son crâne chauve pour obtenir enfin l'issue favorable qu'il a failli trouver le week-end dernier lors du derby avec Manchester United. Les Citizens menaient en effet 1-0 en fin de match avant de se prendre 2 buts en 5 minutes, ce que le technicien espagnol avait évidemment mal pris avant de redevenir fataliste.
Nous sortons d'un match que nous avons perdu, alors que nous étions sur le point de l'emporter. Dans ces circonstances, effectivement, je n'étais pas content. Mais quand on est tombé 6 fois, il faut se relever 7 fois. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, il faut réessayer et recommencer. Et tôt ou tard, la roue va tourner. Je ne sais pas quand, parce que nous avons toujours les mêmes problèmes dans l'équipe. Ruben Dias est absent, pour longtemps. Et Ederson, je ne sais pas s'il sera apte. Nous devons donc persévérer, c'est tout ce que nous avons à faire.
Pep Guardiola avant Aston Villa Manchester City à 12h30, temps universel. De son côté, Arsenal, 3e du classement, se rend à Crystal Palace.
Et puis en France, ce sont les 32e de finale de la Coupe de France qui sont au programme.
Moment où les clubs de l'élite entrent en lice et essaient de ne pas se ridiculiser contre des clubs de rang parfois inférieurs. Ça n'a pas été le cas de Lille hier. Seule équipe de Ligue 1 concernée par les matchs programmés. Victoire du LOSC 1-0 à Rouen, pensionnaire de National, la 3e division. Parmi les rencontres de ce samedi, le déplacement de Lyon à Valenciennes pour affronter les amateurs de Fény-Aulnois, club de National 2. Et puis, petite info de saison en Europe pour marquer le début officiel de l'hiver, parce que c'est aujourd'hui. La victoire en biathlon de Justine Brezaz-Boucher dans le sprint de l'étape de Coupe du Monde au Grand Bornand en Haute-Savoie. La Française a devancé l'Allemande Preuss et la Slovène Anna Maria Lampic.
Merci Christophe Diremzian.
RFI Matin.
180 journalistes tués depuis 13 ans. Le bilan de l'ONG Reporters sans frontières en Syrie depuis la révolution de 2011 jusqu'à la chute du régime de Bachar al-Assad il y a 2 semaines. La Syrie est devenue en 13 ans le 2e pays le plus dangereux au monde pour les journalistes derrière l'Érythrée. Beaucoup ont fui le pays au début de la révolution, comme celui que vous avez rencontré, Théo Renaudon, pour Menace sur l'information.
Là, on est à Radio Rosanna. C'est une radio créée il y a 10 ans à Paris par des journalistes syriens exilés. Aujourd'hui, elle est suivie par des milliers d'auditeurs. Celui qu'on entend là, c'est Mohamed Alaj. La chute de Bachar, pour lui,
c'est le plus grand moment de ma vie, je pense. C'est la libération du journalisme aussi, c'est pas la libération de Syrie. Je suis quitté la Syrie en 2013. J'étais une journaliste citoyen, militant citoyen.
Pendant la révolution ?
Pendant la révolution contre le régime de Bachar.
Vous filmiez, vous manifestiez ?
Manifester, filmer, écrire les infos sur les réseaux sociaux, moi, juste pour Raqqa.
C'était dangereux, ça ne plaisait pas au régime.
Très très dangereux. Et ils cherchent toujours qui a filmé. On ne travaille pas avec notre nom. Moi, je m'appelle Guevara de Raqqa. C'est pas Mohamed.
Beaucoup de prisons ont été ouvertes, beaucoup de prisons du régime. Est-ce que des journalistes ont été libérés de ces prisons ? Est-ce que vous avez des nouvelles de certains ?
Non. Personne sortir.
Ils ont été quoi ?
Je sais pas. On peut pas dire ils sont morts. Les familles de eux, ils sont pas acceptés de dire ils sont morts. Pas de nouvelles pour toutes les journalistes. Ils sont en prison de Bachar al-Assad.
Comment les HTS, donc ceux qui sont en tête de la coalition au pouvoir aujourd'hui, traitent les journalistes?
Il y a des lignes rouges. Par exemple, la corruption, les libertés de monde, les libertés de femmes. Mais c'est pas très mal comme la régime de Bachar al-Assad.
Est-ce que vous, Mohamed, aujourd'hui, vous comptez rentrer en Syrie pour faire votre travail un jour de journaliste ?
Un jour, oui, mais maintenant, non.
Pourquoi ?
Bachar al-Assad est tombé, mais la liberté de journalisme, je ne suis pas sûr que je peux travailler en Damas comme ici.
Même s'il ne revient pas en Syrie, Mohamed, sourire aux lèvres, se dit très fier de sa génération qu'il appelle lui-même
la génération de la révolution.
Théo Renaudon pour Menace sur l'information. Il est 9h20 à Damas. Et cette répression sanglante de la révolution syrienne, les 13 ans de guerre qui ont fait plus de 500 000 morts et des millions de réfugiés et de déplacés, la chute du régime de Bachar el-Assad il y a bientôt 2 semaines et les perspectives pour une Syrie libérée de son emprise mais toujours dans l'incertitude. On en parle ce matin avec notre grande invitée internationale. Bonjour Alaa Rajab.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes actrice, réalisatrice et scénariste. Vous avez quitté la Syrie en 2015. On en reparlera. On entendait il y a un instant ce journaliste syrien exilé en France nous dire que la chute de Bachar el-Assad était le plus grand moment de sa vie. Le dimanche 8 décembre, vous, qu'avez-vous ressenti ?
D'abord, je ne croyais pas ce que je voyais à la télé. Et je pense que ça m'a pris plusieurs heures avant de commencer à pleurer.
C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu la surprise et ensuite l'émotion ?
Je ne sais pas si c'est une surprise, c'est l'espoir, plutôt, je dirais. Enfin, l'espoir de quelque chose qu'on n'attendait pas du tout.
Mmh. Ouais. Vous avez, j'imagine, pensé à votre père, car votre histoire personnelle est intimement liée à l'histoire de ces 13 dernières années en Syrie. Votre père était un opposant communiste. Le régime l'a torturé à mort en 2015, et c'est à ce moment-là que vous avez dû vous exiler en France.
Oui, j'ai pensé beaucoup à lui.
Qu'est-ce qu'il aurait dit en voyant cette chute du régime Assad?
Je pense qu'il aurait été très content. Moi, j'ai pu lire un truc de lui sur Internet où il disait que la révolution syrienne était c'est quelque chose qui lui a rendu sa dignité et que c'était pour lui le plus grand rêve. Donc, de voir son plus grand rêve se réaliser, c'était quelque chose.
La chute du régime Assad, c'est aussi d'une certaine manière une victoire pour lui, pour votre père et pour tous ses opposants qui ont été soit tués, soit torturés ou détenus.
Oui, bien sûr, ouais. Après, on voit les images, on a vu les infos. Je pense que beaucoup de personnes ne sont pas sorties de ces prisons. Mmh. On attendait des amis, on attendait des gens qu'on connaissait, que finalement...
Vous-même, vous attendiez des nouvelles de certaines personnes et vous n'en avez pas eu?
Non.
Passer la joie de cette libération de la Syrie du régime Assad, le peuple syrien est aujourd'hui un peuple exsangue, épuisé, traumatisé par 13 ans de guerre. De quoi a-t-il besoin? Il faut garder à l'esprit aujourd'hui, en parlant de la Syrie, que la situation reste grave, plus que précaire, et que les besoins sont très concrets.
Je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de sentiments de sérénité, de sécurité, en premier lieu. Ils ont besoin d'une situation économique qui respecte un peu leur dignité humaine. Je pense que les réfugiés qui sont dans les camps depuis 13 ans, ils doivent revenir chez eux et pouvoir construire leur maison et reprendre leur vie. Et moi, je pense beaucoup à tous ces enfants qui ont grandi dans les camps et qui n'étaient pas forcément dans des situations qui les protégeaient et qu'ils n'avaient pas accès forcément à des écoles et à l'éducation. Je pense que la priorité du peuple syrien aujourd'hui, c'est la dignité, la sécurité, et puis on verra.
La grande question aujourd'hui, c'est aussi celle de l'avenir politique du pays, de l'orientation, alors que le groupe islamiste HTS a pris le pouvoir et cherche à envoyer pour l'instant des signaux rassurants sur les droits des femmes, sur les minorités. Ça n'a pas empêché des centaines de personnes de manifester jeudi à Damas au slogan de « Nous voulons la démocratie, pas un État religieux ». Les droits des femmes, le sort des minorités sous le nouveau pouvoir syrien, c'est un sujet d'inquiétude pour vous aujourd'hui ?
Moi, je pense que c'était compliqué depuis l'époque de régime Assad, parce que nous, on n'avait jamais un État. Enfin, on n'avait pas le sentiment d'être citoyen d'un État. C'était un régime, je ne sais pas si je peux dire le mot fasciste, mais enfin, pour moi, c'est comme ça. Et les gens qui manifestent aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne signe d'une santé, qui commence à s'installer dans le pays, parce qu'il y a eu une manif à Damas, il n'y a pas eu de balles, il n'y a pas eu d'arrestation, les gens expriment leur avis d'une manière libre. Donc pour moi, la situation des femmes, on a vu les femmes sortir de Sednaya, on sait qu'il y a des femmes qui ont été tuées pendant des années, On sait que cette liberté était fausse pour les femmes et pour le peuple. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a pire que ça, enfin, de ce qu'on a vu, enfin, en tout cas. Mais les gens manifestent parce qu'ils ont le droit maintenant de le faire.
Ouais, c'est déjà un signe encourageant, on le comprend dans ce que vous dites. On voit aussi les combats se poursuivre aujourd'hui dans le nord-est de la Syrie entre les forces pro-turques et les forces kurdes. Le groupe HTS prépare d'ailleurs un assaut conjoint avec les pro-turcs. Craignez-vous que la Syrie aujourd'hui reste plongée dans la guerre, sous une forme ou sous une autre ?
Oui. Oui, je pense. Parce qu'il y a beaucoup, quand même, en Syrie, il y a beaucoup d'ethnies. Moi-même, je viens de, enfin, des Alaouites, qui est une minorité en Syrie, qui a accompagné pas mal le régime dans son guerre, sa guerre contre la population. Et oui, j'ai peur que ça continue, que la haine s'installe entre les gens, qu'il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, je pense que les gens vont prendre justice eux-mêmes. Dans le pays, il y a quand même pas mal des armes entre les mains de tout le monde.
Oui.
Donc c'est quelque chose qui m'inquiète aussi.
Vous décriviez dans un texte, il y a quelques années, cette sensation de sécurité que vous aviez peut-être perdue à jamais. On voit aujourd'hui des Syriens soulagés, mais qui continuent d'avoir peur de ce qu'ils disent, comme sous le régime Assad, qui n'est pas du tout lointain. C'est une crainte, un réflexe qui met du temps à disparaître quand on a été habité par cela pendant des années.
Bien sûr, oui. Le peuple syrien, moi j'ai dit, le peuple syrien, il est quand même assez prêt aujourd'hui à avoir un dictature, parce qu'ils sortent d'une dictature et ils sont assez prêts à avoir un autre. Donc c'est vrai qu'on a besoin de temps pour construire des choses à l'intérieur de nous déjà, de guérir de tout ce qui s'est passé pendant ces 13 ans et de pouvoir construire l'homme, l'humain à l'intérieur de nous. Et ça prend du temps et... C'est comme ça.
En attendant, la Syrie, vous en parlez dans le spectacle Radio Live Vivante, un mélange de radio et de théâtre avec deux autres actrices de Bosnie et d'Ukraine, un spectacle pour donner la parole à trois femmes ayant grandi dans des lieux de conflit. Est-ce que la chute de Bachar al-Assad a changé ce que vous y racontez ?
Un peu à la fin, oui. On a ajouté la nuit de chute de régime.
Ouais.
Dans le spectacle. Ouais. Puis ça donne une ouverture qui était pas là dans le spectacle avant, parce que c'est un peu le seul espoir entre ces trois histoires, on va dire, à la fin. Et ça redonne espoir aussi à l'Ukraine, ça redonne espoir à la Bosnie, malgré que je suis... C'est de l'espoir quand même mélangé avec de l'inquiétude. Ouais.
Vous avez aussi joué dans un film sur les réfugiés rescapés des prisons du régime Assad. Votre histoire, votre travail, c'est deux choses qui sont complètement indissociables pour vous ?
Mon histoire est...
Et votre travail ? En tant qu'artiste ?
Oui, je pense. Enfin, moi, en tant qu'artiste, j'ai quand même des talents techniques, on va dire ça comme ça. Mais oui. Ce que j'ai envie de raconter, évidemment, c'est des sujets qui me touchent personnellement. L'exil, la guerre, la réconciliation. Enfin, c'est des sujets qui m'intéressent. Les prisons aussi, quand mon père était déjà détenu politique plusieurs fois. C'est des sujets qui me touchent parce que ils se croisent avec mon histoire personnelle et j'ai envie de parler de ça, ouais.
Vous imaginez retourner en Syrie aujourd'hui ?
J'aimerais bien. Enfin, peut-être pas définitivement, parce que ce que je voulais vous dire, que c'est quand même compliqué quand le régime est tombé. Enfin, nous, pendant 10 ans, avec mes sœurs, on a construit toute une vie ici, en se détachant de tout ce qui se passe en Syrie, parce qu'on pensait qu'on n'allait jamais revenir. Et c'était pour nous protéger un peu. Et là maintenant, tout d'un coup, du jour au lendemain, on voit qu'il y a une possibilité de retour. C'est quand même assez violent. Donc j'aimerais bien retourner en Syrie, peut-être juste pour visiter, pour faire des ateliers de scénario, pour réaliser des choses.
Merci beaucoup, Alaa Rajab, actrice, réalisatrice et scénariste syrienne. Très bonne journée à vous.
Merci.
Et à bientôt sur RFI.
Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, RFI s'associe à la Croix-Rouge française qui lance un appel à dons pour soutenir la population touchée par la catastrophe d'une ampleur immense. Dans l'immédiat, la priorité pour aider les victimes est d'apporter de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel pour construire des abris. Chaque don compte. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Pour aider les volontaires de la Croix-Rouge sur place, faites un don sur croix-rouge.fr.
L'atelier des médias, Steven Jambeau. Je reçois la journaliste Mathilde Mélin, qui est spécialisée dans l'écoute et la critique de podcasts. Avec elle, nous allons revenir sur quelques-unes des productions francophones marquantes de l'année 2024, toutes en lien avec l'international. Alors je vous donne rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI pour une spéciale podcast dans l'atelier des médias.